VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 18 octobre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Bénin, le Parlement votera des lois de réforme électorale et accordera une amnistie aux personnes en détention depuis les violences post-électorales de mai.
En République démocratique du Congo, report à lundi de la marche anticorruption, initialement prévue pour demain, à l'appel du CLC.
Le président américain Donald Trump se félicite de la trêve arrachée à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan dans le nord de la Syrie.
L'affaire ukrainienne, un haut responsable de la Maison-Blanche reconnaît qu'il y a eu contrepartie avant d'accuser les médias d'avoir délibérément déformé ses propos.
Brexit, le Premier ministre britannique Boris Johnson va tenter maintenant de convaincre son Parlement après l'accord trouvé à Bruxelles.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Bénin, le Parlement a annoncé hier qu'il voterait des lois de réforme électorale le plus rapidement possible et accorderait une amnistie aux personnes en détention depuis les violences post-électorales de mai dernier. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Des lois seront votées le plus rapidement possible, a annoncé Louis Vlavonan, le président de l'Assemblée nationale. Il a précisé que 5 à 6 lois seront prises pour concrétiser les décisions du dialogue politique. À l'issue des discussions du 10 au 12 octobre, les représentants de formations politiques ont recommandé 18 mesures, dont, je cite, l'amendement de la charte des partis et du code électoral pour favoriser la participation de tous les partis politiques au processus électoral. Le président de l'Assemblée nationale a également annoncé des mesures d'amnistie pour tous ceux qui sont impliqués dans les événements issus des élections législatives d'avril. Une partie de l'opposition n'avait pas été autorisée à participer à ce scrutin. Des dizaines de personnes sont toujours incarcérées après les manifestations qui ont fait une dizaine de morts.
En République démocratique du Congo, report à lundi de la marche contre la corruption initiée par le comité laïque de coordination, une structure proche de l'Église catholique et qui était prévue pour demain. Cette marche a été reportée de 2 jours à la suite d'un arrangement entre ses organisateurs et le gouverneur de la ville de Kinshasa, selon notre correspondant Thierry Kamundi. Cette marche pacifique, soutenue par l'opposition, vise à mettre la pression sur le pouvoir du président Félix Tshisekedi au sujet du détournement présumé de 15 millions de dollars et aussi sur la justice pour des faits de corruption dénoncés lors du processus électoral mais qui n'ont jamais fait l'objet de poursuites. Le CLC s'était illustré entre 2016 et 2018 à travers des manifestations contre un troisième mandat de l'ex-président Joseph Kabila et pour exiger la tenue dans les délais des élections, manifestation qui avait fait plusieurs morts.
Les écoles coraniques et les enfants en Afrique, la police du nord du Nigeria a accusé hier un religieux d'avoir fait fonctionner un centre de détention illégal après que les forces de l'ordre ont lancé une opération dans son école où de nombreux enfants auraient été victimes de torture. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Cette opération est la troisième du même type lancée par la police en moins de 2 mois, attirant l'attention sur des écoles coraniques où les enfants subissent des violences et vivent dans des conditions déplorables. Salisu Amissou alias Malam Niga a été traduit jeudi devant un juge de la ville de Katsina, dans le nord du Nigeria, avec 2 de ses assistants. Ils ont été inculpés pour avoir fait fonctionner un centre de détention illégal où les enfants étaient gardés contre leur volonté, enchaînés et victimes d'abus. L'arrestation de Malam Niga fait suite à une opération similaire dans une école de la ville de Dora, où plus de 300 écoliers qui disent avoir été enchaînés, torturés et victimes de violences sexuelles ont été libérés par les policiers. Le mois dernier, la police dans l'état voisin de Kaduna avait secouru plus de 300 écoliers d'un pensionnat similaire qui étaient enchaînés et vivaient dans des conditions déplorables. En raison de nombreux cas de consommation de drogue et du manque de centres de réhabilitation officiels dans le nord du pays, de nombreux parents confient leurs enfants à des écoles coraniques considérées comme des écoles de redressement informel où ils sont soumis à des violences.
La mission de l'ONU en Libye a appelé hier les autorités dans l'est du pays à faire la lumière sur le sort de la députée Siham Sergewa, enlevée il y a 3 mois chez elle à Benghazi, ville contrôlée par les forces du maréchal Khalifa Haftar et siège du Parlement. Selon l'ONU, l'enlèvement de Mme Sergewa est un message de terreur adressé aux élus pour les décourager de s'exprimer librement, comme l'avait fait à la télévision la députée la veille de son enlèvement.
Au Malawi, la police a ouvert hier une enquête pour viol et torture à la suite d'allégations d'organisations des droits de l'homme visant des policiers soupçonnés d'avoir agressé des femmes en marge de manifestations post-électorales. Depuis les élections présidentielles et législatives de mai dernier, le Malawi est secoué par des manifestations de l'opposition qui dénoncent la réélection frauduleuse à ses yeux du président sortant, Peter Mutharika.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président Donald Trump a salué hier la bonne nouvelle de la suspension de l'offensive turque dans le nord de la Syrie. L'annonce en a été faite à Ankara, où le vice-président américain Mike Pence s'est longuement entretenu hier avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le point avec Eric Manirakiza.
Des millions de vies vont être épargnées, a tweeté le président des États-Unis. Il a salué hier l'annonce d'un cessez-le-feu dans le nord de la Syrie, estimant qu'il s'agissait d'un grand jour pour les États-Unis, la Turquie et les Kurdes, se disant satisfaits que les négociations aient abouti aussi vite. Le vice-président Mike Pence, dans une conférence de presse à Ankara, a annoncé hier que la Turquie va suspendre son offensive pendant 5 jours et y mettre fin après un retrait des forces kurdes de ce secteur durant cette période de suspension. M. Pence a eu plus de 4 heures d'entretien avec M. Erdogan. Le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, a confirmé cet accord. Cependant, il a précisé que l'opération va s'arrêter seulement lorsque les forces kurdes se seront retirées complètement de cette région.
Selon une ONG, des combats sporadiques se déroulent ce matin dans une ville frontalière du nord syrien. Il y a des tirs d'artillerie sporadiques et on peut entendre des tirs dans la ville de Ras al-Ain, a indiqué à l'AFP le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Le secrétaire général de la Maison-Blanche, Mick Mulvaney, a surpris hier en admettant que le président Trump avait gelé les 400 millions de dollars d'aide militaire dont avait désespérément besoin l'Ukraine pour forcer Kiev à enquêter sur les démocrates et la présidentielle de 2016. Monsieur Trump a passé des semaines à démentir l'existence d'un tel lien entre les deux questions. Monsieur Mulvaney a cependant publié un communiqué tentant de clarifier ses propos. Les seules raisons pour le gel des fonds, a-t-il expliqué, c'était des soucis liés au manque de soutien à l'Ukraine de la part des autres pays, ainsi qu'à la corruption. La presse aurait délibérément déformé ses propos, selon M. Mulvaney, au profit de la chasse aux sorcières contre le président Trump.
Une nouvelle épreuve attend le Premier ministre britannique Boris Johnson après avoir arraché hier un accord de Brexit avec l'Union européenne. M. Johnson doit maintenant convaincre ses députés, ce qui n'est pas gagné d'avance, Irénée Hermanoungou.
Pour Boris Johnson, le moment est venu maintenant de se rassembler comme pays et d'honorer le résultat du référendum de 2016. Il devra se battre pour chaque voix, puisque le gouvernement ne dispose plus que de 288 élus contre une majorité absolue de 320 voix à la Chambre des communes. Jeremy Corbyn, chef du Parti travailliste, principale formation d'opposition avec 244 députés, a appelé ses troupes à rejeter ce texte. C'est également non pour le Parti unioniste nord irlandais, allié du gouvernement à Westminster. Ce parti ne dispose que de 10 députés à la Chambre des communes, mais son soutien est indispensable vu l'absence de majorité. Son feu vert aurait permis de convaincre les dizaines de Brexiteurs les plus durs du parti conservateur, dont la position reste inconnue. Les députés peuvent rejeter pour la 4e fois l'accord de divorce avec l'Union européenne après avoir recalé 3 fois le compromis négocié par sa prédécesseur Theresa May concernant l'Irlande du Nord.
En Espagne, jour de grève générale ce vendredi en Catalogne, les marches de la liberté parties de toute la région doivent converger à Barcelone où une manifestation massive est prévue. Des dizaines de milliers de séparatistes protestent depuis lundi contre les lourdes peines de prison infligées à leurs leaders pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017. La situation était cependant bien plus calme hier que les deux derniers soirs où la ville a vécu de véritables scènes de guérilla urbaine entre manifestants et policiers.
L'économie chinoise a fortement ralenti au troisième trimestre à 6% sur un an, en dépit des efforts de stabilisation de la conjoncture engagés par Pékin en pleine guerre commerciale avec Washington. C'est ce qui ressort de statistiques officielles publiées ce vendredi. Il s'agit de la plus faible performance de l'économie chinoise depuis au moins 27 ans.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Minute Éco, Nanik Talani.
Shell envisage d'exploiter des concessions en Égypte au cours du second trimestre de 2020. La société a remporté 3 concessions pétrolières et 2 gazières dans le pays en février. Elle est également intéressée à participer à un appel d'offres en Égypte pour des travaux de forage pétrolier et gazier dans la mer Rouge. Shell serait aussi intéressée par toute offre du même genre en Méditerranée. En Éthiopie, le chiffre d'affaires d'Ethio Telecom a augmenté de 21% au premier trimestre par rapport à la même période de l'année dernière. Il a atteint 343 millions de dollars avec un nombre d'abonnés en hausse de 10%. D'après le directeur général Freeward Tamiru, cette hausse s'explique par la réorganisation des produits existants et le lancement de nouveaux. Grâce aux tarifs réduits sur Internet et les données, la consommation des produits a augmenté de 92%. Pour terminer cette minute éco, la justice suisse a condamné le négociant genevois en matière première Genvor à payer plus de 85 millions d'euros pour corruption au Congo et en Côte d'Ivoire. Le tribunal explique que l'entreprise n'a pas empêché entre 2008 et 2011 la corruption d'agents publics dans ces deux pays pour accéder à leur marché pétrolier. Des 85 millions, Genvor versera plus de 3,6 millions d'euros d'amende au canton de Genève où se trouvent ses bureaux. Le reste, soit près de 82 millions, seront versés à la Confédération suisse en forme de créances compensatrices correspondant à la totalité des profits réalisés par Genvor sur les affaires en cause menées au Congo et en Côte d'Ivoire.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Victor Osimhen, élu joueur du mois de septembre en Ligue 1.
Oui, l'attaquant nigérien de Lille a été élu meilleur joueur du championnat français du mois de septembre. Le mois dernier, l'ancien joueur de Charleroi a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en 5 matchs. Alors que Victor Osimhen découvre la Ligue 1 cette saison, il n'a pas perdu de temps pour s'adapter. Depuis le début de la saison, il a inscrit 7 buts en 9 matchs dans le championnat français.
Idrissa Gueye, blessé aux ischio-jambiers et absent 10 jours.
Le milieu international sénégalais du Paris Saint-Germain souffre d'une contracture aux ischio-jambiers et sera absent lors des 10 prochains jours d'entraînement. Idrissa Gana Gueye, 30 ans, arrivé à Paris l'été dernier en provenance d'Everton, va donc manquer le voyage à Nice ce soir pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 et le déplacement à Bruges mardi en Ligue des Champions. Le club parisien a déjà perdu lors de la trêve internationale sa superstar Neymar pour les 4 prochaines semaines. Gana Gueye, qui a disputé 8 matchs dans lesquels son club n'a jamais perdu ni encaissé le moindre but, pourrait aussi rater le classico du championnat de France opposant le PSG à l'Olympique de Marseille le 27 octobre à Paris.
Paul Pogba absent pour le choc entre Manchester et Liverpool.
Le milieu de terrain français de Manchester United ne sera pas sur la pelouse dimanche à Old Trafford pour le choc face à Liverpool. Paul Pogba, blessé à une cheville depuis le mois d'août avec son club, a manqué les 4 derniers matchs des qualifications pour l'Euro 2020 avec la France. Face au leader de la Premier League, les Red Devils, 12e du classement, devront en plus composer avec le forfait de leur gardien, David De Gea, blessé à la jambe droite lors de la rencontre opposant la Roura à la Suède mardi en qualification pour l'Euro 2020.
Le président de la FIFA veut une interdiction mondiale de stade pour lutter contre le racisme.
Gianni Infantino a plaidé en faveur d'une interdiction mondiale de stade pour les spectateurs coupables d'actes racistes. 3 jours après les incidents lors du match Bulgarie-Angleterre,
Lundi, le match de qualification à l'Euro 2020 entre la Bulgarie et l'Angleterre à Sofia a été interrompu deux fois après des actes racistes visant des joueurs noirs de l'équipe anglaise. Le président de la FIFA a assuré qu'il est désormais facile d'identifier les auteurs de ces actes grâce aux caméras dans le stade. Ils doivent être arrêtés, expulsés des stades, ne plus être autorisés à y rentrer et des procédures judiciaires doivent être lancées contre eux, a déclaré Infantino.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les activités ont repris hier dans la capitale guinéenne Conakry après trois jours de manifestations. L'appel du Front National pour la Défense de la Constitution à une journée ville morte n'a pas été largement suivi jeudi. De nombreux Guinéens sont sortis par nécessité, nous dit notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Les rues de la capitale grouillent de monde ce jeudi. Malgré l'appel à une ville morte, les Guinéens rencontrés dans les rues de la capitale n'en peuvent plus de rester à la maison.
Le panier de la ménagère qui nous coûte cher et que le pouvoir d'achat est vraiment dérisoire. Donc le Guinéen est obligé de sortir. Le Guinéen vit le quotidien, le Guinéen vit le jour. Et, bah, je trouve ça normal.
Mais ça fait trois jours qu'on ferme à la maison. On a des familles vraiment qu'on doit nourrir, les enfants, bon, si on sort pas, ça n'amasse pas du tout. Il faut qu'on sorte pour gagner quelque chose à manger quand même.
Les violences ont été enregistrées sur la route Le Prince. Pendant trois jours, les commerces sont restés fermés. À Koloma, quartier périphérique de Conakry, il a fallu l'intervention des sages auprès des forces de sécurité pour que les femmes reprennent le chemin du marché. Karamoko, sage du quartier.
On s'est mobilisé, on s'est retrouvé au CMS près des autorités compétentes. Ces gens-là, vraiment, ils nous ont bien écoutés d'une très bonne oreille et effectivement, ça a marché parce que ça a porté fruit ce matin. On nous apprend que vraiment les femmes ont eu la fluidité de rentrer dans le marché, de faire les emplettes et de retourner. Parce que cela, c'était un blocus depuis deux jours.
À Conakry, plusieurs boutiques sont fermées par endroits, les cours perturbés dans certaines écoles, comme en témoigne Bana Diara, proviseur du lycée Kipé.
Tant qu'il n'y a pas l'affluence, les bandits ne viendront pas. On est obligé de laisser les enfants sortir pour aller dans le quartier manger. Et quand ils vont, à peine certains reviennent. Maintenant, par exemple, c'est une seule classe qui est revenue de la 11e mathématique, qui est en train de suivre un cours de physique maintenant là, avec une quinzaine d'élèves. Et une classe d'expérimental terminale, aussi en train de suivre un cours de mathématiques. Mais là, il n'y avait que 5 élèves, mais il y a 2 professeurs. Puisque les 5 élèves sont venus, il ne faut pas qu'ils retournent comme ça. Il faut leur donner quelques cours, puisqu'ils sont venus pour ça.
Les violences des trois jours de manifestation contre le troisième mandat d'Alpha Condé ont fait 9 morts, selon le gouvernement guinéen. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Mali, les dégâts causés à l'entrepôt de la MINUSMA à Sévaré s'élèvent à environ 2 millions de dollars, soit 1 milliard de francs CFA, selon la chef de bureau de la mission des Nations Unies à Mopti. Des efforts sont faits pour récupérer les matériels emportés. Notre correspondant Mamadou Bokoum fait le point.
Nous sommes à la brigade de recherche de la gendarmerie de Sévaré. Ici, des éléments sous un hangar attendent les matériels dérobés dans l'entrepôt de la MINUSMA le samedi dernier. Le lieutenant-colonel Boubou Sissoko, commandant de la 5e légion de la gendarmerie, fait le point.
Au niveau du commandant de brigade de la recherche de gendarmerie de Sévaré, nous avons 3 magasins là-bas. Les 2 premiers magasins contiennent différents matériels qui ont été saisis sur place le jour même des casses. Et le 3e magasin, ça c'est après que nous avons constaté et que le gouverneur a convoqué une réunion au niveau du gouvernorat. Donc, à la suite de cette rencontre, nous avons mis en place un comité de sensibilisation. Le comité a bien fait son travail. Et effectivement, nous avons ramassé beaucoup de matériel au niveau de la ville et ce matériel aussi a été déposé au niveau du 3e magasin. Donc, le matériel des 3 magasins, il s'agit des climatiseurs, des isoplanes, des fils de fer barbelés, il y a des matelas et beaucoup d'autres matériels.
Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, certes, mais le dégât est important, précise la chef de bureau de la MINUSMA, Fatou Dieng Cham.
On a des estimations, en tout cas pour l'heure c'est provisoire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu deux camions qui ont été brûlés et des conteneurs brûlés, vandalisés. Et pour l'heure, on estime à peu près à 2 millions de dollars les dégâts causés par ces manifestants.
À ceux qui détiennent des matériels, les forces de défense et de sécurité accordent un délai pour les ramener. Lieutenant-colonel Bobo Sissoko, commandant de la Légion de la Gendarmerie de Mopti.
Jusque-là, ça vient timidement. Maintenant, en fin de semaine, moi, je compte instruire à mes différentes unités de commencer les enquêtes. En ce moment, c'est sur dénonciation et qu'on va passer cette fois-ci de porte en porte pour enlever le matériel. Et en ce moment, on va prendre les gens qui seront en possession du matériel. Et là, en ce moment, ce sera le vol. Donc, maintenant, les intéressés vont se voir déférer devant le procureur de la République.
Au jour d'aujourd'hui, le calme règne à Sévaré et le couvre-feu reste en vigueur jusqu'au 20 octobre. Mamadou Bokoum Amopti pour VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, les pièces de monnaie deviennent de plus en plus rares à N'Djamena et même dans certaines parties du pays. Il est difficile pour un détenteur d'un billet de banque d'acheter un article et d'avoir en retour de petites pièces de monnaie, surtout celles allant de 25 à 100 francs CFA. Les raisons de cette situation, reportage de notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar.
À N'Djamena, les pièces et les petites coupures de monnaie ne circulent pas. Quelques citoyens affirment à VOA Afrique que ce sont des casinos installés partout dans la ville qui absorbent les pièces. Un jeu de hasard qui consiste à introduire des pièces de 100 francs CFA dans une caisse alimentée au courant qui peuvent en contenir entre 30 à 40 000 francs CFA en pièces pour espérer gagner plus.
Surtout les enfants, ils jouent ce jeu et puis la monnaie, eux, ils ramassent. Et puis maintenant, le peuple tchadien en souffre. Le problème de rareté des monnaies, moi je vois que c'est par rapport au jeu. Vulgairement, on appelle ça Yibib, parce que quand tu joues et que tu écoutes le son Yibib, là, c'est qu'ils t'ont bouffé. Mais quand tu écoutes le haut, tu as gagné, là, tu gagnes également.
Même les adultes poussés par le gain facile, ça donne également à ce jeu, comme en témoigne ce joueur qui requiert l'anonymat.
Je viens de mettre un 500 francs. Malheureusement, j'ai perdu les 500 francs. Si seulement j'avais la chance, je pouvais embaucher facilement 2000, 3000. Mais malheureusement, la chance n'a pas été de mon côté.
Ahmad Mahamat, responsable de la société de machines à sous, dénommé Galaxy Entertainment, reconnaît que la carence des pièces d'argent dans la ville de N'Djamena est dû en partie à l'apparition de machines à sous.
Moi, j'ai commencé à faire mes propres pièces avec le nom de mon entreprise. Il me donne 1000 francs CFA, je lui donne 10 pièces au nom de mon entreprise Galaxy. Mais effectivement, il y a des machines contenant des dizaines qui utilisent des 100 francs, 100 francs.
Le manque de pièces d'argent est un problème qui s'observe aussi dans d'autres pays, notamment le Cameroun et la RCA, selon Abbas Mohamed Touli, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale.
C'est carrément des pièces de monnaie qui sont utilisées et qu'aujourd'hui, on se rend compte que ces pièces également prennent d'autres destinations. Il y a un travail qui est en train de scanner un peu tous ces processus pour voir en quelle mesure nous allons amener justement à éviter que des signes monétaires soient distraits par ce type de choses et créer un assèchement sur le marché.
Pour le juriste Mbailassam Nadingar Ndou, cette situation joue négativement sur l'économie familiale.
Quand quelqu'un prévoit dépenser X francs, arriver dans une boutique, il se trouve qu'il est contraint d'acheter un second article ou bien dans un bar, on lui sert un avoir. Quand il revient deux, trois jours plus tard, on dit que non, le délai est expiré. Un délai qui se donne, on ne sait pas sur quelle base juridique. Dans tout pays, normalement, il y a ce qu'on appelle l'état gendarme. L'état gendarme doit être regardant par rapport au flux financier et par rapport au marché pour que des directives soient prises et puis surtout respectées.
La thésaurisation qui consiste à enfuir l'argent dans le sol contribue aussi à la rareté des pièces de change, alors que la monnaie est faite pour être dans le circuit bancaire afin de booster l'économie du pays. André Kodmajingar N'Djamena, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, à N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Ici aux États-Unis, l'enquête en vue d'une éventuelle destitution du président Donald Trump s'est intensifiée avec le retour des parlementaires au Capitole après une suspension de 2 semaines. Les démocrates estiment que M. Trump a ouvert la porte à une intervention étrangère dans les élections de 2020, ce que rejette le président américain. Le point avec Lionel Gahima.
La semaine a été bien remplie pour les démocrates au Congrès. Beaucoup d'anciens responsables de l'administration Trump ont témoigné à huis clos. Le député Elliot Engel, président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre.
Je ne pense pas que nous ayons atteint notre objectif pour le moment. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire et nous sommes en train de les faire.
Une plainte d'un lanceur d'alerte accuse le président Trump d'avoir suspendu une aide américaine à l'Ukraine en échange d'une enquête sur son rival Joe Biden et son fils Hunter. C'est la raison pour Adam Schiff, président de la commission du renseignement de la Chambre, d'exiger des informations supplémentaires que l'administration Trump refuse de donner.
Les arguments en faveur de l'obstruction au Congrès continuent de se développer.
Le président Trump affirme qu'il ne va pas coopérer tant que les démocrates n'auront pas tenu un vote pour officialiser leur enquête. C'est un jeu pour saper l'autorité du Congrès, d'après Nancy Pelosi, présidente de la Chambre de représentants.
Nous ne sommes pas ici pour faire du bluff. Nous sommes ici pour trouver la vérité, pour faire respecter la Constitution des États-Unis.
Mais le président accuse Nancy Pelosi et les démocrates de faire un jeu politique.
C'est juste complètement fou. Tout ce que vous avez à faire, c'est lire la transcription de l'appel. Lisez-les. C'est un cas simple et ouvert. Ils sont désespérés parce qu'ils savent qu'ils vont perdre l'élection.
Adam Schiff est aussi une cause de frustration de républicains. Il fait face à un vote formel de désaveu introduit par les alliés de Trump au Congrès. Kevin McCarthy, chef de la minorité républicaine à la Chambre.
Il n'y a rien que le président ait fait dans cette affaire qui puisse justifier une procédure de destitution. Et vous savez quoi? Si la porte-parole de la Chambre avait entendu 48 heures pour avoir la transcription, nous ne ferions pas subir tout ceci à l'Amérique.
Les démocrates subissent des pressions pour organiser un vote avant la fin de l'année, pour ne pas empiéter sur le début officiel de la campagne présidentielle en février prochain. Mais pour certains démocrates, le temps ne devrait pas être une préoccupation. Sheila Jackson Lee, représentante démocrate.
Il est important de comprendre que nous ne sommes pas dans une course contre la montre pour ne pas donner l'impression que nous sommes heureux de faire ce que nous faisons, que c'est une célébration et que tout ce que nous voulons, c'est de garder ou destituer le président.
La prochaine étape des démocrates, c'est de savoir davantage sur les échanges textos entre d'anciens membres du gouvernement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Londres et Bruxelles ont trouvé un accord pour faire aboutir le Brexit à la date prévue du 31 octobre. La validation du nouvel accord, qualifié de juste et équilibré par les parties aux négociations, est suspendue au vote très incertain du Parlement britannique. Pour une analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Édimbourg, en Écosse, la journaliste indépendante Assa Samaké-Romain.
Des points qui coinçaient le plus, c'était le fameux backstop nord-irlandais. En fait, en quelque sorte, c'est un filet de sécurité. L'Union européenne et le Royaume-Uni n'arrivaient pas à trouver un accord commercial à faire en sorte qu'il n'y ait pas une frontière dure pour mettre en place entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, qui fait elle aussi partie de l'Union européenne. Là, ce qui a été fait, c'est qu'en fait, finalement, l'accord de retrait a été rouvert. Et ce qui va se passer, c'est que l'Irlande du Nord et la République d'Irlande vont être dans une même zone douanière réglementaire qui permettra, en fait, qu'il n'y ait pas une frontière dure. Et donc, les produits qui vont circuler entre l'Union européenne et le Royaume-Uni vont, en fait, être contrôlés, non pas à cette frontière-là, mais, en fait, dans une frontière en mer d'Irlande, entre donc la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Il y a aussi des arrangements au niveau de l'application de la TVA, notamment en Irlande du Nord. Aussi, ce qu'on appelle le consent, donc le fait que l'Assemblée d'Irlande du Nord devra se prononcer pour ou contre la poursuite de cet arrangement.
Est-ce que c'est un bon accord par rapport à l'accord de Theresa May?
Pour Boris Johnson, c'est effectivement un très très bon accord, tout simplement parce qu'il a réussi à se débarrasser du backstop. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne passait pas du tout auprès de nombreux conservateurs, mais aussi auprès du DUP, le Democratic Unionist Party, qui tient le Parti conservateur, parce qu'ils n'ont pas de majorité au Parlement britannique, ils ont perdu cette majorité en 2017. Donc maintenant, il a pu mettre ce backstop à la poubelle et proposer ce nouvel arrangement, alors qu'on lui avait dit que ce ne serait pas possible que l'Union européenne ne l'accepterait pas. Évidemment, l'opposition est extrêmement contre. Pour le Parti travailliste, c'est un accord des pires. Donc le chef du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, a dit que ses députés ne voteraient pas cet accord. Pour d'autres partis, comme les libéraux-démocrates, par exemple, c'est évident qu'ils ne voteront pas pour, tout simplement parce qu'ils sont opposés au Brexit, en fait, comme principe. samedi, les députés vont exceptionnellement siéger pour savoir quoi faire de cet accord. Soit ils vont le voter, et si ça passe très bien, dans ce cas-là, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne le 31 octobre. Soit ça ne passe pas, et dans ce cas-là, légalement, ces députés ont voté cette fois. Boris Johnson va être obligé de demander une extension, donc un report du Brexit, à l'Union européenne.
La journaliste Assasa McEraman, jointe à Édimbourg, en Écosse. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Carl Starling. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seguldia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.